19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez, puisque la famille grandit, elle pousse, et on est ensemble jusqu'à 20h. 20h pour, vous le savez, ça ne change pas. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors, pour démarrer cette toute nouvelle semaine, chers amis auditeurs et auditrices, partout en France, vous êtes de plus en plus nombreux. D'abord, vous savez, vous êtes prioritaire. Vous nous appelez et puis vous passez quand vous voulez sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Notamment, vous savez, la colère des agriculteurs qui se sont emparés de Paris, mais qui continuent d'ailleurs à bloquer Paris. On va en parler. Est-ce que vous êtes touché par cela? Est-ce que ça handicape votre quotidien? Est-ce que vous soutenez les agriculteurs? Je voudrais vous entendre, chers amis auditeurs, au 01 53 48 3000. Oui, il faut qu'on en parle avec vous, les auditeurs, parce que je pense que vous êtes concerné. Est-ce que la colère des agriculteurs vous parle? Est-ce que ça vous touche dans notre quotidien? Eh bien, parlons-en. Ensuite, les sujets qui ont retenu notre attention. La colère des agriculteurs, puisque demain, le Premier ministre, Gabriel Attal, va de nouveau s'emparer de la parole pour faire d'autres mesures. Il va aller encore plus loin. Encore plus loin, ça veut dire quoi? Eh bien, on va en parler tout à l'heure, puisque ça tombe bien. On a aussi l'un des porte-parole de Renaissance, mais également aussi qui représente la majorité du président de la République qui sera avec nous sur le plateau. Les agriculteurs, on reviendra donc sur ce sujet, y compris avec vous, chers amis auditeurs, au 01 53 48 3000. La gauche, à force de prétendre que l'immigration, tout simplement, est un faux problème, eh bien, paraît-il, elle se condamne à assister en spectatrice à de redoutables batailles. Ça a retenu mon attention, c'est un édito de Philippe Bernard dans Le Monde, qui, je dois dire, a retenu mon attention. Et c'est pas fou, il a raison. Nous en parlerons tout à l'heure, y compris avec vous et les débatteurs influenceurs. Tiens, tiens, heureusement qu'on a des syndicats sur le plateau. On va parler salaire. La patronne de la CFDT estime qu'en France, on n'a pas de grande démission, mais une grande déception. Bon, alors, faudrait peut-être que ça bouge, les amis, à clochette. Ben oui. On parle du SMIC, là. Bon, on en parlera, ça tombe bien, on a un représentant. Le Quoi de Neuf avec Michel Taube. Michel Taube, vous savez, qui est éditorialiste, mais également le directeur fondateur d'Opinion Internationale, vous savez, le média en ligne. Eh bien, c'est lui, aujourd'hui, qui ouvre cette semaine avec son billet d'humeur et son regard autour d'un billet d'humeur, autour de l'actualité. Les débatteurs influenceurs sont prêts à s'emparer du micro. Voilà, ils sont quatre. Fait exceptionnel, d'habitude, ils sont trois. Mais là, on démarrait tout de suite avec eux. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
J'y tiens, c'est vrai. Le face-à-face avec Karim Maloum. Bonsoir Karim.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Très bien.
Multifonction,
reporter, journaliste, économiste et observateur.
Oh, ah là là, observateur, j'aime bien observateur, ouais. Un journaliste est par excellence un fin observateur.
Un journaliste est peut-être un très bon observateur.
Oui, je pense.
C'est lundi.
C'est son premier métier d'ailleurs.
Absolument. D'ailleurs. Mais peut-être aussi commentateur. Oui. Souvent, oui. On n'en a pas beaucoup de journalistes, on en a beaucoup de commentateurs.
Il y a des bons fouteurs de merde aussi chez les journalistes.
Oh, des fouteurs de merde, j'aurais pas dit ça, il a droit à une clochette lui.
Il faut relever un peu le niveau.
Ben, en même temps, vous l'avez bien cherché. Vous avez tendu le bâton pour faire battre, cher ami.
Ce qu'on appelle de l'agitation propagande.
L'agitation qui ne représente pas grand-chose, là, pour le coup. Hein.
C'est du vent, l'agitation. Ben, si vous allez sur la chaîne numéro 1 et 5, ça ressemble plus à de la propagande qu'autre chose.
Pas du tout.
L'agitation, c'est une revendication de petits bourgeois, syndicalistes, qui considèrent qu'on va faire un bordel, on va s'agiter, on a tout fait, on va rentrer chez nous. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis un syndicaliste aussi.
C'est factuel. C'est comme ça que fonctionnent les médias dans le cœur de la France.
Des discussions de
comptoir. Il faut construire.
Mais on est en France, ce sont des discussions de bistrot.
Les travailleurs ont besoin de construire.
Il n'y a pas que ça dans l'action syndicale, il y a des gens constructifs.
Exactement. J'ai fini mon tour de table et on va parler justement d'un sujet qui préoccupe nos Français et qui nous préoccupe aussi. Tiens, un représentant de Renaissance justement et qui est le porte-parole aussi également, c'est Monsieur Topersland. Comment ça va?
Ça va, et vous?
J'ai mal exprimé.
Non, c'est très bien, c'est Topersland. Ergun,
exactement. Tout va bien?
Super, et vous?
Plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce que vous arrivez à la main? Un petit accident,
un petit activité, une suractivité sur les téléphones et les claviers d'ordinateur.
Non, c'est vrai. Non, mais non.
Non, non,
c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, non?
Non, c'est rien de grave. C'est qu'un carpien. Ouais. Bon. Un peu trop jeune pour l'avoir, mais je l'ai déjà.
Bon, bah écoutez, bon rétablissement à vous.
Merci.
Mon cher Agoun. Un élu de Villejuif, c'est celui qu'on appelle Guillaume de Souy. Quand je dis Guillaume de Souy, ils avaient l'aristocratie, tu sais, on dirait qu'ils avaient toujours à l'aristo. Ça va, Guillaume?
Bonsoir.
Non, mais faut le voir, il est
Monsieur
équipé.
Monsieur Farkan,
hein.
Comment ouais, ça va?
Ça va bien,
Monsieur de Farkan.
Ah, bah moi, je suis pas aristo. Hein.
Monsieur Del Farkan.
Hein, Del Farkan, ouais, c'est ça. Exactement, ouais. En plus, c'est vrai, j'ai regardé un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Farkan. Alors, j'ai regardé un peu en France et j'avais des gens qui portent le même nom. Bon, ça m'a amusé quand même de voir ça.
Ça veut dire quoi?
Bonne question.
Si vous avez la réponse,
on aura la réponse la semaine prochaine.
On attend les auditeurs sur cette question.
C'est pas très intéressant.
Ouais, vous savez qu'on m'a souvent. Alors j'ai eu un droit à tout, moi. Farrakhan, Louis Farrakhan, aux États-Unis. J'ai eu le droit à Tarkhan ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah. J'ai le droit à tout, hein.
Comme Tarkhan, c'est un chanteur aussi.
Comment?
C'est comme ma femme, Tarkhan.
Voilà, non, mais c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Je vous vraiment, je blague pas. Allez, je l'ai pas fait exprès. Hein.
Alors
le syndicaliste.
Bonjour à tous.
Représentant syndicat CGT.
Toujours.
Auteur.
Toujours.
Auteur, mais en même temps, il va gratter chez Amazon. Hein.
Oui, je publie certains livres de mes livres chez Amazon, oui, tout à fait. Je
pense que il aime le beurre et l'argent du beurre.
Non, je pense qu'il faut être.
Et il accuse la crémière.
Je pense qu'il faut être malin et utiliser les moyens modernes.
01-53-48-3000, c'est parti, le jingle.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous donne la parole. Vous savez pourquoi? Parce que il y a Jérôme Bail justement qui s'est fait un peu tacler par ses amis, ses collègues agriculteurs, parce que alors le mec, on lui a proposé un poste. Vous savez, le gouvernement lui a proposé un poste, bah, paraît-il. En même temps, il l'a avoué et c'était pour faire taire un peu le truc et pour freiner la mobilisation et la colère des gilets jaunes, non, des agriculteurs. Et aujourd'hui, il se fait tacler par tous les agriculteurs. Il dit, il nous a trahis. Faisons un tour de table justement, parlons de cela, de ce traître justement. Ça, vous savez ce que c'est?
Vous parlez de quoi exactement?
Les traîtres.
Bah, les sociotraîtres, oui, les sociotraîtres, ouais, on les connaît, ouais. Notamment la social-démocratie, certains partis.
Tenez, je vous donne la parole. Oui, allez, parlons-en de la colère des agriculteurs. Oui, justement, Jérôme Bail, est-ce que c'est justifié qu'ils se fassent tacler un peu comme
alors,
ça?
Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre la colère des agriculteurs et le mouvement des agriculteurs et les certains syndicats qui se représenteraient comme, en tout cas, qui se présentent comme le bras armé des agriculteurs. Alors le mouvement des agriculteurs,
Qu'est-ce que
je m'explique, le mouvement des agriculteurs, il est totalement justifié, mais à 200% sur 100. Mmh. Il est parti d'Allemagne, ça se coagule un petit peu partout en Europe. Pour plusieurs raisons, on n'aura pas le temps de les énumérer, mais il n'y a pas que les accords. Oui, effectivement, il y a les accords de marché européens, mais c'est surtout tout simplement le fait, d'une manière simple, précise, que lorsque vous travaillez plus de 60 heures par semaine et que vous touchez moins que le SMIC, eh bien, c'est inadmissible.
Hein, c'est ce que disent les agriculteurs. On veut vivre de notre travail.
Bien sûr, on est tout à fait d'accord.
De notre travail.
Après, il y a les directions syndicales. J'en parlais encore cet après-midi avec mon syndicat, la CGT, on en a parlé. Et effectivement, je pense que les agriculteurs, s'ils veulent, je parle de la FNSEA, je pense à monsieur Rousseau. Alors si je crois que c'est bien monsieur Rousseau
qui a pas voulu de la CGT alors, rejoindre, c'est ça?
Ouais, non, mais je pense qu'il y a une certaine, voilà, monsieur Rousseau par exemple est un grand dirigeant, il
vous
dirige les entreprises agroalimentaires.
Ah, vous êtes pas les
non, mais je veux dire, à un moment
il répond pas,
je pense que si on veut véritablement que le peuple opprimé de France trouve réponse à ses revendications, il faut cristalliser les luttes.
C'est quoi ces éléments de
la France est un pays de liberté, de démocratie, n'est pas un peuple opprimé.
Et ça veut dire qu'à un moment,
on n'est pas au XVIIe siècle, monsieur.
Pour faire converger les luttes, il faut des bases communes.
Ouais.
Et pour avoir des bases communes, il faut qu'on soit clair sur certaines lignes politiques, par exemple. La FNSEA, pour moi, c'est pas. Est-ce qu'il y a un véritable problème que non seulement la FNSEA est un peu trop proche du RN.
Je sais pas,
le FNSEA est un peu trop proche du RN.
Aujourd'hui, effectivement, c'est un mouvement populaire et légitime. Il pose des problèmes sérieux. Mais seulement, il faut poser les éléments de débat. L'agriculture française est excédentaire. c'est un fleuron de l'économie européenne.
Vous êtes factuel quand vous dites ça?
Absolument. C'est les vrai? Chiffres le disent. Je sais pas, je parle dans l'ensemble, par une filière des céréales, bien entendu.
Excédentaire.
Par le vin. C'est-à-dire que excédentaire. L'ensemble, quand vous faites l'addition de toutes les activités de l'agriculture française, elle est excédentaire. Et l'une des meilleures agricultures. J'ai pas terminé, s'il vous plaît.
Pour toi, le gars qui touche même pas 1 000 euros.
Non, arrêtez-vous, mélangez tout. J'arrive, c'est pas la même chose. Il faut reconnaître que. Laissez-moi terminer. J'arriverai aux gens qui ont des soucis. J'ai dit tout simplement, nous avons une agriculture qui est excédentaire, qui se développe très bien. On exporte beaucoup les céréales, les vins. Laissez-moi terminer. Arrêtez. On n'est pas à l'université. J'ai quitté, ça fait 30 ans l'université.
C'est faux. On importe plus qu'on exporte.
Donc, on exporte beaucoup.
Donc, on excédente plus.
Attendez. 20%. Vous connaissez pas votre dossier.
Mais si, je connais mon dossier. Je vais donner des chiffres.
Vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est 20% en général. Après, vous pouvez parler du poulet à 50%, 70% des fruits, c'est vrai. Mais quand vous faites la distance, c'est
20%. 32 000 tonnes, 30 000,
32 000 tonnes de bœuf. Vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous faites que de la propagande. Laissez-moi terminer. J'ai dit tout simplement. L'agriculture est excédentaire. Aujourd'hui, on a effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne partie de nos paysans qui adorent leur ferme, qui adorent leur métier, ils n'arrivent même pas à toucher le SMIG. Travaille 15 heures par jour pour 700 ou 800 euros. C'est une honte. C'est un scandale absolu.
Là, on parle
absolu.
Des petits, là. Hein.
Voilà. Il faut les aider. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est comment fait-on pour
concilier,
terminer juste l'écologie, parce que c'est quelque chose, on va revenir tout à l'heure, sur, en même temps, le libre-échange.
L'écologie, c'est mal barré, hein. Ouais.
Mais si on fait une marche arrière sur l'écologie...
C'est un peu mal barré. Non, l'écologie, on va la mettre de côté. Hein,
on
vous
peut
savez,
pas.
Ça.
On a fait tellement...
Si Gabriel Attal veut proposer des mesures concrètes, il est obligé de s'asseoir sur l'écologie.
Le Green Deal, donc on est très très bien avancé. Aujourd'hui, il faut accompagner les conséquences. Il y a des personnes qui sont victimes de ça. Il faut les accompagner. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau en même temps. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner.
Bah là, c'est un peu le cas. Ergom Torpaslan.
Alors, sans rentrer dans la bataille de chiffres, concrètement, c'est que y a une industrie qui marche plutôt bien, mais en réalité, c'est que au bout de la chaîne, les producteurs, ceux qui sont au cœur de cette industrie, ne sont pas satisfaits de leurs conditions et de leurs revenus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des distributeurs ou de l'exportation sur plein de produits. En final, ceux qui le produisent à l'origine ne sont pas contents de ce qui leur reste. Nous, on avait fait plusieurs dispositifs, notamment la loi Egalim, pour essayer de faire en sorte que leur marge augmente, parce que concrètement, c'est leur marge. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, sans rentrer dans les détails, sans faire de la récupération politique, c'est que ça marche pas, on gagne pas assez, on n'est pas content au final. Donc évidemment, c'est normal qu'il y a de la récupération, l'extrême droite a essayé, les syndicalistes aussi, parce que les syndicalistes, il faut le rappeler, ils ont été dépassés.
Sauf que là, comme vous représentez Renaissance, voilà. Là, il risque d'y avoir une escalade, je vous le dis clairement.
Alors justement, si nous, on répond
c'est
pas...
C'est une semaine de tous les dangers. C'est une semaine de tous les dangers.
Exactement, merci Karim.
Vous avez les taxes qui se rajoutent.
De tous les dangers. Vous avez la CGT, vous avez les taxes, vous avez
le bâtiment.
Vous avez l'hôpital.
Il y a deux choses qui interviennent.
Vous allez vous prendre...
Un fait politique.
Moi, j'ai peur pour vous, je vous le dis.
C'est l'intérêt d'être au pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, on a responsabilité, il faut qu'on puisse répondre.
Vous tardez, les amis, vous tardez, je vous le dis, vous tardez.
C'est le début du grand bal des mécontents, et ce grand bal, c'est vous qui l'avez initié.
Alors, je suis pas certain, mais c'est ce genre de choses. On essaie de répondre, ça c'est certain.
En plus, on a un ministre de l'Intérieur qui est en train de contester le titre du meilleur souffleur de braise aux agriculteurs et qui nous met des chars à l'entrée de Rungis en disant que c'est la ligne rouge.
Bah évidemment.
Non, mais le rôle
de protéger les biens. La ligne rouge dans un gouvernement bien administré.
Il est dans son rôle, je suis désolé, il est dans son rôle de protéger les biens et les personnes.
Non, mais c'est pas possible. Non, mais là, vous
vous rendez compte. Non, mais là, vous êtes en train de troubler les extrêmes avec tout ça.
De semer de la confusion dans les
communautés. Les Français ont besoin d'ordre aussi. On peut manifester sans casser, sans
menaces. Les Français n'ont pas besoin de menaces.
Ils ont besoin d'ordre.
Les Français.
Alors, si vous n'avez pas besoin de menaces, attendez, s'il vous plaît. Chacun tour de rôle. Pourquoi menace? Pourquoi vous parlez tout de suite de menaces?
Mais parce que...
Et après, il vous répond, Ergun. On va
sans cesse aux extrêmes avec ce gouvernement. Ce gouvernement ne s'occupe que de fiscalité, n'est pas capable d'agencer un dialogue politique dans ce pays pour qu'il y ait une vraie concorde et qu'effectivement on fasse le lien entre la fin du monde et la fin du mois et des jours heureux et un monde désirable. Ils n'y arrivent pas. Donc, sans cesse, ils sont sur des luttes intestines et sans cesse, ils sont en train de jouer les corporatismes les uns contre les autres. Je distribue, je distribue pas. C'est pas ça, faire de la politique.
Ah bah écoutez, il va vous répondre.
Ce n'est pas ça.
Il va vous répondre, l'un des porte-parole de Progrès, etc., de Renaissance. Allez-y, monsieur.
C'est vrai qu'il y a dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, on a des défis qui s'accumulent autant. L'écologie, le développement durable, et donc toutes nos...
Et il a raison de le soulever.
Il est, par contre,
parce qu'on risque de s'asseoir sur ça, justement.
Exactement. Par contre, c'est pas avec des slogans et en faisant miroiter un monde meilleur, un monde demain où tout ira bien, tout sera redistributif, qu'on arrivera à relever ces défis.
Non, mais c'est
on essaie de relever,
monsieur. C'est
on essaie de le relever.
Vous avez empiré la France depuis 2017. Arrêtez, monsieur. Vous avez empiré la France depuis 2017.
On a mis en premier lieu.
Je vais revenir dessus après.
Le défi, les slogans, c'est votre président avec le réarmement qui nous les assène.
Mais en revanche, je pense. Mais c'est le sujet. Moi, je veux bien. Je veux bien que vous tombiez sur lui, il n'y a pas de problème.
Non,
mais au moins, laissez-le. Mais laissez-le répondre
aussi sur ce qu'a dit M. Malou, mais il faudrait que je prenne la parole.
Eh bien, vous savez quoi, on va marquer une pause et vous allez vous prendre. Par contre, écoutez-vous les uns les autres, parce que sinon, c'est la quincophonie. Alors, parce que je vous pose la question. On a eu les gilets jaunes. Parce que moi, je sais ce qui est redouté par par le gouvernement, ce qui est redouté, et moi, je voudrais entendre Ergun quand même, tant passant là-dessus, c'est qu'on s'est tapé les gilets jaunes et ils ont trop tardé à réagir, les macronistes. C'est vrai, vous reconnaissez-le.
Non, mais c'est certain, il ne faut pas qu'on vive un épisode.
Et Karim disait un truc très juste, Maloum. C'est la semaine de tous les dangers. Pourquoi ? Si vous laissez traîner cette histoire-là, vous allez vous taper les 10 gilets jaunes fois 1000. Et plus, je pense. À tout de suite, on marque une pause, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Karim Maloum, les informés enfin avec Ergun Top Arslan et enfin avec... pardonnez-moi, on est quatre ce soir. Jimmy Deldou et enfin, oui, Guillaume de Suisse. C'est parti, je posais la question concernant... On a eu les gilets jaunes, on a eu évidemment, la gestion a été extrêmement compliquée, le grand débat, les gilets jaunes ont regretté effectivement que tout cela tombe un peu à l'eau. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter tout simplement vers une convergence des luttes, comme dit le syndicaliste Jimmy Dalidou? Je parle par là évidemment de la colère, la colère des agriculteurs, mais notamment l'escalade, peut-on la craindre, Ergun Torpaslan?
On va tout faire pour l'éviter. L'idée, une fois qu'on a une révolte, une expression citoyenne, l'idée c'est politiquement d'y répondre plutôt que de surfer dessus, de capitaliser dessus. Donc aujourd'hui, on a eu en plus les taxis qui se sont exprimés.
Maintenant,
les Français pendant très longtemps ont évidemment exprimé cette nécessité, ce besoin d'améliorer leur pouvoir d'achat. On doit aussi expliquer tout ce qu'on entreprend, en quoi ça leur améliore leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie ou autres. Mais il est vrai aussi de prendre en compte le fait qu'il y a des demandes contradictoires parfois. Mmh. On ne peut pas demander à chaque fois plus de services publics et payer de moins d'impôts indéfiniment.
Oui, je suis d'accord.
On ne peut pas être diamant de service budgétaire.
Justement, ça fait débat. Ça fait débat. Guillaume Dessouy et ensuite Jimmy Dalidou et ensuite Karim Maloum.
Moi, je le disais la semaine dernière, pour ça, il ne faut pas un État imposant, il faut un État stratège. Et là, à quoi on assiste ? On assiste à des corporations qui sont en train de vouloir gouverner, qui arrivent et qui disent « Nous, on va faire le siège tant que l'intégralité de nos revendications ne seront pas remplies. » Ils ne laissent même plus de capacité de dialogue parce que le dialogue n'a pas existé dans le cadre du grand débat national, tu le soulignais. Et puis, ensuite, ce fameux Conseil national de la refondation, qui n'a strictement rien donné.
On a des défis incroyables. Que l'État intervienne dans chaque secteur. C'est absolument pas ni notre philosophie, ni notre
l'État,
posture politique.
L'État, il a besoin de remettre de la concorde entre le smicard, l'agriculteur, le distributeur, les intermédiaires, il a besoin de refonder un certain nombre d'enjeux avec pour première boussole, effectivement, l'écologie et pour deuxième boussole, le bien-être direct des Français. Parce que ce bien-être, il est forcément entamé par les efforts qui sont liés à la détérioration qu'il y a eu depuis le début de ce quinquennat.
Finalement, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre deux aspects. Premier aspect de la contradiction, c'est le fait qu'on a des multinationales de l'agroalimentaire qui bavent, qui ont l'eau à la bouche et qui bavent et à la simple idée de spéculer à fond les ballons sur l'agriculture. L'autre aspect de la contradiction, c'est des compétences et un savoir-faire de l'agriculture française, parce que nos agriculteurs sont très compétents et sont très performants. La ferme familiale, la ferme, elle est possible, même avec fonctionnant avec les technologies modernes, c'est faisable. Monsieur nous dit que les macronistes.
Quand
vous dites
monsieur, c'est qui? Ergun.
Oui, monsieur Ergun. Je vous rappellerai que votre patron, monsieur Macron,
le président de la République. Pourquoi vous dites le patron?
Vous dites le président de la République.
Non, je suis parti là. Mais non,
lorsqu'il était ministre,
c'est Jimmy Deligou. le président de la République. C'est aussi votre président.
Il était ministre de
l'Intérieur.
Il avait signé des accords avec des multinationales indépendamment de des velléités du peuple français et même indépendamment du gouvernement lui-même. Alors ça veut dire quoi?
C'est notre système d'élection.
Ça veut dire qu'en fait, vous avez organisé à travers des accords de marché européen, le TAFTA, le CETA, le Mercosur, le tout chapeauté par la PAC, vous avez organisé, monsieur, d'accord, et vous et tous vous, ceux que vous représentez, vous êtes bien de Renaissance,
bien sûr.
Uberisation de l'agriculture française, comme vous organisez une uberisation de, des
ça va plus loin que ça
français,
quand même. Il y a 75 ans de politique de droite dans l'agriculture.
Allez, attendez. Vous pointez du doigt un certain nombre de choses. Karim Maloum, vous répondez. Ensuite, après, c'est Ergun Topaslan parce qu'il est pointé du doigt. 01 53 48 3000.
Nous voulons d'écouter un discours qui s'oppose à la démocratie libérale.
Ah, monsieur Maloum, il se croit dans une démocratie.
Il se réclame de la démocratie à coup de LBD.
Laissez-le répondre.
Une démocratie à coup de LBD, c'est ça?
Oui, c'est un partisan de la démocratie libérale qui s'oppose à
démocratie à coup de LBD ou pas?
Je répondrai.
Ah, bah, répondez à la question.
C'est pas à vous de, c'est à moi de parler, c'est pas à vous.
Donc, démocratie à coup de LBD.
Je continue comme je veux.
Parce que c'est bien vous.
Donc, je disais, nous assistons à un débat, une personne, au nom de la démocratie illibérale qui s'oppose à toutes les structures mondiales ou bien nationales, il a un discours d'extrême droite.
Confusion.
C'est le vrai discours d'extrême droite s'opposer à tout ce qui est intermédiaire, à tout ce qui est action démocratique.
Le discours que vous donnez, monsieur Maloum, c'est une négation des conquêtes sociales françaises. C'est une négation du savoir-faire français.
Votre discours,
c'est une négation du peuple premier de France. Et vous leur faites croire que la dictature du capital française n'existe pas.
Non,
ce que vous faites,
monsieur. Alors, il y a une confusion. Et après, c'est un
laissez-moi terminer. Je pense que nous sommes un pays démocratique, nous avons nos institutions et nos contre-pouvoirs. Et effectivement,
nous avons des
contre-pouvoirs.
Et ça, ce serait pas la démocratie. Si Monsieur Macron faisait de la politique.
Ce que vous gênez, avec à la tête,
ce que vous gênez, vous avez des slogans. Depuis 30 ans, 50 ans, vous les répétez sur toutes les questions. Votre niveau est très bas. Vous aviez quelques phrases, vous les répétez sur l'agriculture, sur l'industrie, sur le tourisme,
vous pas
sur toutes
le peuple
les questions.
Quand il vous
parle. Nous sommes un pays de droit, monsieur.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur les salaires, par exemple? Les agriculteurs et tous les travailleurs qui sont dans la rue veulent augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous dites?
Premièrement, monsieur, les salaires ne sont pas augmentés par le gouvernement, sont augmentés par les employeurs dans une négociation salariale.
Il n'y a que les employeurs.
C'est
le
BABA pour un syndicaliste. Pour un syndicaliste qui ne connaît pas ça, c'est grave.
Il y a que les employeurs qui décident.
Vous connaissez pas.
Donc, le salaire, il n'y a que.
C'est l'employeur qui décide.
Dire qu'il n'y a que le
dans les branches. C'est une négociation de branches. On reviendra sur l'intervention de la patronne de la CFDT. Je peux annoncer la couleur. Je suis de la CFDT.
Non,
laissez-moi terminer.
Mais
c'est pas possible, ça. Vous êtes allé.
Vous êtes un perroquet, vous pouvez pas le dire.
C'était une méthode des gauchistes. Ils sont comme ça, les gauchistes, ils
ne
vous laissent jamais terminer.
Pas d'anathème.
Le salaire, monsieur, est conditionné par les charges des entreprises, par les charges sociales des entreprises.
La négociation salariale dans les branches,
qui
vient se tenir, monsieur.
Ergun.
Il vient se tenir, c'est elle qui décide de l'augmentation de salaire. Ce n'est pas. Le patron, ce n'est pas.
On
n'est pas dans un face-à-face.
Ergun,
vous ne maîtrisez pas le BAB du syndicat.
S'il vous plaît,
sinon je vais devoir couper les micros. Ergun,
c'est fatigant.
T'en passes quand? Oui, c'est fatigant.
C'est révélateur d'une chose, c'est tout d'abord la dérive idéologique que nous, on pointe du droit. Clairement, aujourd'hui, remettre en cause le fait majoritaire, qui est à la base de notre démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des élections.
Quel fait majoritaire?
C'est un point commun du populisme.
Il n'y a pas de majorité.
Évidemment. Évidemment, il sort sur l'ensemble.
Et vous dites quel fait majoritaire?
Le fait majoritaire, élection, majorité, un président de la République est élu, élection
législative,
un gouvernement gouverne. Je suis d'accord qu'il faut des contre-pouvoirs, qu'il faut des négociations, qu'il faut des syndicats. Mais pour autant, il faut arrêter.
Attendez, laissez-le, de grâce. Sinon, on va pas s'en sortir.
Quand on explique la démocratie, la légitimité, le manque de président, etc., on mélange un peu tout. Mais il faut dire les choses. Aujourd'hui, le point commun entre les populistes, c'est de remettre en cause ce fait majoritaire. Il faut l'accepter. Alors, s'il y en a qui le remettent en cause, pour nous, ils sont hors de l'arc républicain.
La France est une démocratie parlementaire.
La France est une démocratie parlementaire.
La ligne.
Il n'est pas en 55% des Français n'ont pas voté pour vous.
Vous savez quoi? On va couper les micros, je vais accueillir les auditeurs. Parce que moi-même, ça me fatigue. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, les amis. Non, on ne peut pas.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Fatia de Paris. Bonjour Fatia.
Bonjour tout le monde. Moi, c'est juste, je voulais déjà il y a deux jours où j'étais tellement excédée que j'ai pas pu passer. C'est juste pour dire un mot. C'est franchement, je le dis en toute honnêteté parce que c'est la sensation que j'ai. Oui. Je ne rate jamais cette émission Les Informés.
Oui.
Mais là, quand c'est des gens qui représentent les Français. Une telle cacophonie, c'est incroyable.
Ben, merci.
Et c'est pas un exemple.
Je vous remercie, Fatia.
Franchement,
je vous remercie, Fatia, de dire.
C'est pas pour
moi, ça me fatigue.
Jamais je ne vous boycotte. Mais dès que je sens qu'au début de l'émission, ça crie, c'est un dialogue de sourds. Alors, voyez l'exemple que vous donnez aux enfants. Ma petite fille est avec moi, elle m'a dit, mais mamie, pourquoi ils sont en train de crier? Ils ne peuvent pas discuter tranquillement.
Voilà. Elle a raison, Fatia. Merci.
Voilà. Non, mais
Fatia.
Bonne soirée,
Fatia,
tout le monde.
Merci de nous interpeller sur ce sujet.
Désolé, Fatia.
Effectivement, on peut se chamailler, on peut ne pas être d'accord, mais de grâce, est-ce que, évidemment, et c'est bien de le dire, et c'est bien que les auditeurs le disent eux-mêmes,
mais
ils comprennent rien, en fait. Vous êtes entre vous, vous faites un match entre vous, et ils ne comprennent rien, les auditeurs. Absolument rien. Que vous ne soyez pas d'accord qu'il y ait des contradictions. Oui, bien sûr. Et c'est le lieu. C'est les informés. Mais franchement, écoutez-vous, les amis. On peut pas. Voilà. C'est pas un match de coq, là, franchement. Et ça devient insupportable. Et elle a raison, Fatia. Elle a raison. Guillaume de Souy. Merci, Fatia.
Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Et franchement, c'est pas de la démocratie.
Merci beaucoup. Restez fidèles.
Au revoir.
Guillaume de Souy.
Au revoir.
Et elle a raison. Heureusement qu'il y a des auditeurs qui le disent, franchement. Et je vous l'ai dit moi-même, on peut pas s'entendre.
Merci, Fatia. Moi, ça recoupe un peu ce que je souhaitais dire sur le défaut d'écoute qui existe effectivement dans la société actuelle et pour lequel je considère que le gouvernement a une grande responsabilité. Depuis le départ, ce gouvernement n'a pas de culture militante. Il n'est pas en mesure de comprendre les rapports qui doivent exister dans une société.
Vous êtes un militant, là ?
Non, je suis désolé. Monsieur vient avec son affirmation de l'ordre et justifie l'usage des LBD lorsqu'ils ont eu lieu. Pour moi, toutes ces séquences ont créé le lit de la colère d'aujourd'hui.
Eh ben tiens, on va aller accueillir Yazid qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis, du 93, peut-être pas de la Seine-Saint-Denis. Yazid, bonsoir. De quelle ville vous nous appelez du 93 ?
J'appelle Daunay-sous-Bois.
Daunay-sous-Bois, bienvenue mon cher Yazid, on vous écoute.
Donc on connaît tout ce qui est question. Il faudrait vraiment que l'État français, que les politiques, déjà la plupart des politiques, c'est bizarre. La plupart des politiques, c'est bizarre, parlent de travail, mais la plupart n'ont jamais travaillé de une. De deux, il faudrait vraiment que les États, que ce soit tous les partis, ça soit vraiment pour le problème de la jeunesse, l'immigration. C'est une honte quand j'entends l'immigration en 2024. C'est une honte par rapport à nous, nos parents qui sont venus du bled et nous, maintenant, on travaille, on est entrepreneur, donc on fait marcher, je paye mes impôts en France. Mais c'est vrai que le débat que vous donnez, excellent, mais... levez la main, parlez doucement, vous donnez une mauvaise image. La politique, vous criez toujours.
Voilà. Merci Yazid, comme Fatia. Vous donnez une mauvaise image, encore une fois, évidemment, de ce qui... Regardez, Yazid, un jeune auditeur qui vous interpelle de nouveau encore. Vous répondez quoi ? Merci Yazid, évidemment, d'être intervenu. Et en même temps, il dit, effectivement, il y a une préoccupation autour de la question de la jeunesse, et on répondra.
Oui, alors, merci à Yazid et à sa prédécesseur avant.
Fatia, pardon.
Je pense qu'à un moment là, je fais une proposition, parce que vous savez, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi, je rappelle par exemple que le 1er février prochain, les enseignants seront en grève. Il y a un appel à la grève nationale chez les enseignants, notamment la CGT Éducation, Sud, les FSU, etc. Et vous avez les agriculteurs, la RATP aussi posé, la CGT et RATP a posé un préavis de grève. Et on constate, ça fait 15 ans que je fais du syndicalisme, je constate une chose, c'est que le dénominateur commun, c'est le même. C'est-à-dire qu'on travaille et on ne vit pas, on n'arrive pas à vivre, quel que soit où on travaille, on n'arrive pas à vivre des produits de notre travail. Donc je pense que là, à un moment, il faut qu'on fasse des assemblées générales. Assemblées générales de tous les secteurs. Que les agriculteurs, que les cheminots, que les gaziers, que les électriciens, les enseignants, tous les Français de tous les secteurs de production, publics et privés, se réunissent, qu'on fasse des assemblées générales. Nous, les syndicats, on sait les organiser, il n'y a pas de problème. Dans ces assemblées générales, on discute, on débat, on prend des décisions et on prendra en main notre destin politique nous-mêmes.
Eh ben, je vous donne la parole, Guillaume de Suisse, tout de suite après la pub. Karim Maloum également et Ergun, pardon, Top Aslan. Tout de suite après cette courte pause, et on se retrouve dans une poignée de minutes, 01 53 48 3000. Continuez à nous appeler, ça fait toujours plaisir, et à nous faire part de vos remarques et témoignages.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h40, dernière ligne droite, vous pouvez nous appeler, bien sûr, continuez à nous appeler. 01 53 48 3000, ça fait toujours plaisir à écouter votre point de vue concernant la colère des agriculteurs. Est-ce que vous êtes concerné par la colère des agriculteurs? Est-ce que, notamment, vous les soutenez? Est-ce qu'il y a une forme de solidarité? Parlons-en, 01 53 48 3000. Alors, les débatteurs influenceurs sont avec nous autour de ce plateau pour continuer de débattre. Karim Maloum, Ergun Torpaslan, Jimmy Dalidou et enfin Guillaume de Souy. Messieurs, ah, Guillaume de Souy, pardon, avant de passer au second sujet, puisque je voudrais qu'on avance quand même. Allez-y.
Ouais, moi, je voulais revenir sur ce besoin que pointait Jimmy et pour lequel il a tout à fait raison. Les Français veulent faire de la politique. Oui. Les Français ont besoin de faire de la politique pour mettre les rapports en rapport les conditions de vie réelles des uns et des autres. Et le problème, c'est que le président Macron, ses ministres sont des champions de l'hystérie comptable. Ils pensent à travers des lignes. Ils sont pas en phase avec
banquiers,
ce besoin de politique.
C'est des banquiers, quoi.
Et c'est plutôt facile que de continuer à alimenter cette hystérie comptable, il est extrêmement important que les habitants de ce pays se tournent vers les associations. Alors, se tournent vers nos capacités collectives avant que la tension sociale ne s'accumule.
Karim, qu'est-ce qui vous arrive, Karim? Vous êtes abattu?
Ah non, j'attends mon tour.
Ah d'accord, J'ai eu peur, je me suis dit, ouais, Karim s'éteint, c'est pas possible.
C'est intéressant ce qui est dit tout à l'heure, on parlait d'assises par métier, par corps syndical, on nous reprochait à nous, majorité présidentielle, de ne pas être des militants. C'est le terme qui a été utilisé.
Il l'a dit.
Et nous si effectivement, on le revendique. En fait, il ne faut pas perdre de vue comment le président de la République est arrivé au pouvoir en 2007. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette alternance droite-gauche, les Français en avaient un petit peu marre. Et donc, ils ont voulu Moi, je décris juste le truc. À travers ce dépassement politique qu'on essaie d'incarner, bien, mal, chacun fera son avis.
Oui, mais vous manquez de culture historique
là-dessus. De sortir des idéologies. Si on veut être pragmatique, on va aller jusqu'au bout.
La France est à droite depuis 75 ans.
Ils représentent une infime partie de chaque métier. C'est moins de 10%. Et alors, que va représenter un syndicat par rapport à une filière? Mais la réalité, c'est que ça exprime certaines choses, une certaine sensibilité. Il faut les prendre en compte, mais il ne faut pas pour autant un peu surestimer la chose et se dire on va faire des assises par corps de métier, etc.
Donc,
c'est pour ça qu'on est dans ce sujet de dépassement. On est quand même dans une nouvelle ère politique où effectivement la démocratie passera par une certaine forme de négociation.
Je voudrais qu'on avance, les amis.
Karim, rapidement.
Et on va passer au second sujet.
Juste rapidement sur le sujet, je pense que nous sommes les citoyens peuvent s'organiser dans les associations, les syndicats. On n'a pas besoin d'assemblée générale. On se sent un peu révolutionnaire du terme. La France est une démocratie parlementaire. Nous avons nos élus, nous avons nos commissions. On a deux chambres, on a des contre-pouvoirs, donc en fait la démocratie elle existe, les citoyens peuvent s'organiser, le problème n'est pas là. Mais les problèmes qui existent de l'agriculture, c'est un exemple. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a 318 000 normes qui concernent l'agriculture. 318 000.
Ah, c'est énorme.
Est-ce que ça date depuis Macron? C'est un mensonge.
Non.
Ça date depuis très longtemps.
Ah oui, bien sûr.
Mais pourquoi il y a des normes? Il y a des normes aussi pour qu'on se protège. On a vu la vache folle, on a vu beaucoup de choses aussi. Donc, ce discours démagogique et populiste qui consiste à dire, attends, jette tout, on remet tout à zéro, on va faire des réunions, ça relève uniquement d'un populisme qui
mène
nulle part.
Mais c'est le président qui parle d'un choc de simplicité depuis son élection et qui ne le fait pas.
Simplification.
Attends, vraiment.
Comment?
Mais un choc de simplification. Il faut dire aussi qu'il y a une lourdeur administrative. Maintenant, comment on concilie des objectifs environnementaux, de santé publique, avec une réalité du terrain? Parce que ce que nous disaient les agriculteurs, c'est que en réalité, ils passent énormément de temps à faire de leur paperasse. Ils n'ont pas de guichet unique.
Moi, je vous ai laissé écouter. Aujourd'hui, nous avons plus besoin des actions fortes pour sauver notre agriculture et maintenir notre avancée sur l'écologie.
Des actions parlementaires, ça va sauver le pays.
Non, mais on a besoin d'actions fortes, monsieur, pour prévenir les conflits dans ce pays.
Pour maintenir nos avancées sur le plan écologique et sur le plan démocratique, c'est que nous devons accompagner ces paysans, ces agriculteurs qui sont en difficulté.
Je voulais dire, on va passer au second sujet.
Les actions fortes passent par le développement des luttes extra-parlementaires.
Monsieur,
je parle des syndicats indépendamment du rôle des syndicats. Indépendamment du rôle des syndicats, le peuple travailleur de France n'a jamais été écouté par la Macronie.
Arrêtez,
et la Macronie,
fini,
monsieur,
ça.
Que vous le vouliez ou non, 55% des Français n'ont pas voté pour vous.
Mais il n'a pas tort, c'est fini ça.
C'est fini.
Mais la démocratie,
mais la prévention des conflits, c'est tout de même la base de du contrat social. Et cette prévention des conflits, elle n'a pas été au diapason du gouvernement à son agenda depuis son élection. C'est quand même normal qu'un syndicaliste pointe ce sujet de façon très forte. Les tensions, elles n'ont cessé de monter depuis que Macron a
été...
C'est
pas depuis l'arrivée de Macron, c'est bien avant.
Oui, mais M. Macron les a aggravées.
Oui, mais les tensions se sont révélées de façon beaucoup plus forte, ce qui lui donnait un rôle...
Mais Karim, vous l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit, Karim?
C'est pas parce que ça va ramener deux chiffres, parce que quand vous parlez, il faut donner des chiffres. Le chômage a augmenté, il est passé de 9 et quelques à 7 et quelques. Donc,
6 millions de pauvres au début du quinquennat. De 2017, 11 millions en 2023.
Ce sont 11 millions de pauvres. Dernier sur le plein emploi, on va parler de l'intervention de la patronne de la CFDT. La France se dirige vers le plein emploi. On est capable d'y aller.
Je voudrais qu'on parle de cette tribune qui m'a interpellé. La gauche, à force de prétendre que l'immigration est un faux problème, se condamne à assister en spectatrice à de redoutables batailles. Karim, qu'est-ce que vous dites à ça?
Parce que depuis une vingtaine d'années, j'arrête pas de dire ça.
C'est un bon sujet.
Beaucoup de gens. Que pour une certaine gauche, parce que c'est une la bonne partie de la gauche, considère parler de l'immigration relève du racisme. C'est une erreur monumentale, même stratégique, de considérer que, parce qu'aujourd'hui le problème de l'immigration, ce n'est pas juste les gens qui sont là, parce que les gens qui arrivent des clandestins, etc., c'est pas des gens, c'est par la misère et par les guerres, mais il y a toute une géopolitique de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, ce sont les États qui organisent des convois pour faire pression sur l'Union européenne pour toucher des subventions, soit en Tunisie, soit en Libye, et soit maintenant au Niger par l'Atlantique. C'est nouveau. Donc, si vous voulez, ne pas parler d'immigration, c'est de l'irresponsabilité, parce qu'on utilise aujourd'hui. Je vous dirai une phrase de Georges Marchais en 1983. Il avait dit, aujourd'hui, il est temps d'arrêter cette immigration clandestine, même cette immigration légale. Mais pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de chômeurs, et surtout, ça tire les salaires vers le bas, et que les travailleurs, ils sont déstabilisés et les syndicats sont aussi déstabilisés. Mais pourquoi? Donc aujourd'hui, l'immigration est un problème sérieux à prendre. Il a son apport positif dans la société française. Je suis issu de l'immigration, comme beaucoup de gens. Mais il y a migrants et migrants aujourd'hui. Il y a des migrants qui souhaitent...
S'il vous plaît.
Non. La dignité humaine. Je viens de dire qu'il y a des migrants et migrants. Il y a ceux qui aiment...
Je distribue la parole, c'est pas pareil. Ergun, t'en passes l'an.
Je suis plutôt en phase avec ce constat. Il fut une époque où la gauche était très très en avance sur le sujet de l'intégration, qui est un parallèle important.
Vous la ramenez.
Pardon. Qui est un parallèle.
Vous ne respectez pas quand j'ai pas l'impression que vous avez compris.
C'est vrai.
Moi, j'ai pas l'impression que vous avez compris.
Vous n'y arrivez pas ce soir.
Je vais demander au réalisateur de couper le micro parce que c'est irrespectueux par rapport à.
J'ai des choses à dire, Jimmy.
Ergun.
Alors, c'est tout comme les sujets sécuritaires. En vrai, les premières personnes qui sont impactées par une sécurité ou que la gauche a délaissée ou les sujets d'immigration que la gauche délaisse, ce sont les classes populaires en premier lieu.
Les
travailleurs et les femmes. Aujourd'hui, la gauche, elle parle absolument plus d'intégration. C'était le début
vous
des
engagements. Vous inversez la causalité, monsieur.
J'entends bien. Mais c'est juste à un moment donné, quelle est notre capacité de réponse à ce sujet-là? C'est pour ça qu'en termes d'idéologie, moi, l'ancien monde, l'ancienne séparation de droite et gauche, elle est révolue. Et il faut se l'avouer, il faut accepter certaines choses. Certaines idéologies ont complètement perdu pied par rapport
au niveau de
l'organisation
politique. Aux enjeux, c'est notre des idées, monsieur. Pourquoi vous confondez les deux?
On parle en termes d'idées. C'est très important.
Non, mais
c'est très intéressant. Non, pas que.
Guillaume Dessouy.
Oui, donc. Sur cette question de l'immigration, bien sûr qu'on peut pas minorer les faits et les souffrances du parcours et les difficultés que chacun rencontre, notamment avec la crise du logement, notamment avec la crise des bas salaires. Et effectivement, Monsieur Marchais avait dit en 83 que c'était vers là qu'on allait. Mais sauf que ce que vous oubliez et ce qu'oublie Monsieur Macron depuis le début de son quinquennat et ce qui a existé auparavant, qui fait qu'il n'y a pas eu de politique de gauche depuis 75 ans dans ce pays, depuis les jours heureux, c'est que Le pendant, c'est la coopération internationale. Le pendant, c'est d'avoir des vraies politiques de concertation et de concorde. Et celle-ci, vous n'en parlez pas. Et aujourd'hui, à l'agenda de l'action publique, il n'y a pas à faire une 30e loi pour défigurer la France. Il y a aller à l'ONU. Alors, et participer au grand programme autour des objectifs du développement durable. Et c'est ce jour-là, le ministre, la ministre, Madame Borne, n'y était pas. Le président Macron n'y était pas non plus. Ils étaient tous les deux en train de bouffer un dîner à 40 000 euros par tête. Et ouais, ça, c'est pas le savoir-vivre à la française. Et ça, c'est pas l'avenir dont on veut.
J'ai le quoi de neuf qui m'attend.
D'abord, la France, c'est tous les États-nations ont toujours eu besoin d'une main d'œuvre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la force de travail humaine en tant que capital pour le système, il n'y a pas de limitation. Il en a toujours eu besoin. Je prends la preuve avec Madame Meloni en Italie, et qui vous la connaissez. Elle est clairement d'extrême droite. Et la première chose qu'elle a fait quand elle arrive au pouvoir, elle a ouvert la porte à une immigration qui est d'abord une main d'œuvre dont ils ont besoin. Deuxième chose, c'est que messieurs, c'est pas bon ce que vous faites parce que vous inversez la causalité. L'immigration est issue des luttes, notamment la domination des pays, des puissances occidentales qui ont semé la zizanie, le chaos au Moyen-Orient.
C'est parti, on coupe les micros. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, c'est avec Michel Taube. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir mon cher Adil, bonsoir aux auditeurs de l'EFM.
Vous ouvrez la séance des billets d'humeur cette semaine justement. Et je vous donne la parole puisque vous avez décidé, vous êtes d'abord, je le rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous retrouver, éditorialiste mais aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale, le média en ligne qui cartonne et qui ne cesse de monter. Et je vous donne la parole parce que vous avez Merci décidé de consacrer votre billet d'humeur autour de Gabriel Attal, peut-il sauver la Macronie ? Ça fait trembler tout ça.
Demain, c'est sa journée. Demain, c'est sa petite heure de gloire avec sa déclaration, son discours de politique générale qu'il prononcera à l'Assemblée nationale demain après-midi et le lendemain au Sénat. Alors, Gabriel Attal, est-il le sauveur d'Emmanuel Macron ? Est-il le nouveau Zorro de la Macronie ? On a vu ce soir, d'ailleurs même en ce moment même, Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, qui a choisi le Musée national de l'histoire de l'émigration pour présenter ses vœux au monde culturel. Mais demain, ça rejoint Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal va-t-il révolutionner la Macronie ? Va-t-il la sauver ? Parce qu'elle est en très mauvais état, on va le dire comme ça. Est-ce que Gabriel Attal peut permettre à Emmanuel Macron d'avoir un quinquennat utile ? Honnêtement, j'en doute fort. Il faut lui laisser sa chance. Malheureusement, il y a des Français qui en ont déjà décidé autrement. On le voit avec les agriculteurs qui sont dans la rue, sur les routes de France, et qui bouscule déjà le premier gouvernement Attal. Non, franchement, les choses sont mal parties. Demain, Gabriel Attal, il va donner un peu sa vision de la France, il va parler du travail, il va parler de la dette publique, il va parler évidemment des agriculteurs, mais est-ce que cela va suffire à avancer ? Honnêtement, je ne pense pas, pour deux raisons principalement. D'abord, parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité absolue, donc il va devoir, on va dire, tenir une majorité qui est en fait minoritaire et qui ne va pas lui permettre de prendre de grandes réformes. Et deuxièmement, parce que beaucoup de choses ne se décident plus à Paris, elles se décident à Bruxelles, et là-dessus, il a les pieds et les poings liés. Donc ça va être très difficile. Alors demain, encore une fois, c'est sa journée, il faut le saluer à titre républicain, mais je ne pense pas qu'il sera le sauveur et le Zorro de la Macronie, ce sera très très difficile pour lui.
Là, vous avez raison, Michel Taube, de le rappeler. Effectivement, ça risque d'être très difficile. Parce que, n'oublions pas, on s'est tapé les Gilets jaunes, ça a été très compliqué. On s'est tapé les syndicats, ça a été très compliqué. On s'est tapé les différentes manifs, ça a été trop compliqué. Sauf ce qui nous attend là, avant les élections européennes, ça va être encore plus compliqué. Vous me l'accordez ?
Absolument. Et en tant que chef de la majorité, si les élections européennes sont perdues par la Macronie,
ça risque de faire très mal.
Et ça risque de faire très très mal, effectivement.
Effectivement. Merci, Michel Taube.
Juste merci,
beau billet d'humeur, merci.
Je voulais juste dire que
bonne soirée, au plaisir.
Je voulais juste dire que jeudi, il y a le sommet de Bruxelles de tous les chefs d'État de l'Union européenne qui vont. Cette réunion s'articule sur deux points importants. C'est que bien entendu, débloquer l'aide de 50 milliards pour l'Ukraine. Bien entendu, ça c'est le premier point.
Oui.
Et surtout parler de l'agriculture, mais qui n'était pas prévu, mais ils étaient obligés de débattre jeudi.
Merci messieurs. Merci. Alors ce débat évidemment, je regarde juste, vous savez, cette cacophonie, les auditeurs vous ont,
j'ai pas aimé.
Vous ont interpellé. Ouais. Et vous savez quand on se place à la place de l'auditeur, c'est c'est pas audible. Je vous le dis clairement.
Non, non, non.
Et je m'en excuse auprès des auditeurs parce que c'est pas simple quand même. Hein, c'est pas simple. Hein. Ergun, vous reviendrez, hein, Torpaslan ?
Avec grand plaisir, toujours.
Voilà, qui représente Renaissance. Karim, vous reviendrez ?
Avec plaisir.
J'éviterai de vous mettre face à face l'un et l'autre.
Non, je ne veux pas être avec lui.
Moi j'ai compris que j'évite. J'évite. J'ai mis des doigts bientôt.
Bisous, et 1er février, les enseignants en grève qu'il faut soutenir.
Guillaume de Souy ?
Oui, ben, à bientôt, Adil. Au plaisir d'être là. Merci aux auditeurs de nous écouter, même si parfois les humeurs dépassent la pensée, semble-t-il.
Ouais, mais bon, faut apprendre à canaliser.
La France.
Solal à la réalisation. Bilal Lenman avec Time Sport, spécial Cannes, j'imagine. Ensuite, après, c'est Vanessa de 21h à 23h. Quant à Kim, notre Kimo international, demain matin de 7h à 10h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.